Les balados OIC, un projet de l'Observatoire de l'imaginaire contemporain, en collaboration avec Figura, vous propose un épisode de la série « Imaginaire et éthique ».
Alors, on est très, très heureux de recevoir Alexandre Jeffen pour une conférence. Pour vous expliquer un petit peu le cadre dans lequel on se trouve, on organise depuis 2016 des conférences, chaque session dans mon laboratoire de recherche, qui s'appelle L'art en procès. Et Figura nous aide depuis 2016, je pense à peu près, à organiser ce cycle de conférences-là, ce qui nous permet de les organiser à la fois à Trois-Rivières et à l'UQAM, et aussi de le faire en ligne et de pouvoir l'enregistrer. Donc, toutes les conférences sont après déposées en ligne et sur le site de l'OIC, l'Observatoire, et sur le site du laboratoire L'Art en procès. Donc, je vais présenter à Alexandre. Alexandre est directeur de recherche au CNRS, au sein de l'unité Théorie et Histoire des Arts et des Littératures de la Modernité. Il est rattaché à la Sorbonne Nouvelle, donc à Paris 3. Il est historien des idées et de la littérature. Il est l'auteur de nombreux articles et essais qui portent notamment sur la culture, la littérature contemporaine et la théorie littéraire. On le connaît aussi parce que Alexandre est fondateur de Fabula, qui est ce site qui permet à toute la recherche en littérature de s'organiser. Alors, donc, on le connaît aussi pour Fabula. Pour ce qui est de ses textes, j'en ai apporté un seul, qui est le tout dernier, mais donc il y a une série de livres qui ont paru chez Corti sur l'écriture des vies, sur lesquels tu as beaucoup travaillé. Et puis, il y a eu plus récemment le livre sur la littérature et la réparation. Et puis, ce dernier, en tout cas chez Corti, l'idée de la littérature, de l'art pour l'art, aux écritures d'intervention, qui sont toujours des textes qui rassemblent une somme de connaissances absolument ahurissantes. Moi, je plonge dedans en me faisant des listes de lecture, en me demandant s'il ne va pas me falloir toute une vie pour arriver à les parcourir. Donc, c'est vraiment des livres qui sont tout à fait marquants et qui sont des sommes très importantes. Tout récemment aussi, il a publié, cherche le titre exactement, « La littérature est une affaire politique », qui est un livre d'entretien mené avec des écrivains, 26 écrivains, sur la question des rapports entre littérature et politique. Puis il y avait eu auparavant un numéro de revue aussi sur la même question.
Oui, oui, oui.
Dans la revue Esprit sur les politiques de la littérature. Donc voilà, alors aujourd'hui, on va l'entendre sur une conférence qui s'intitule « Justice et justesse ». Je te remercie beaucoup de ta
merci
présence.
Merci beaucoup, merci de votre accueil. Bon, c'est une conférence où je vais prendre des risques parce que je vais essayer de réfléchir sur des notions qui sont pas beaucoup travaillées encore en littérature, puisque la notion de justesse, elle vient de la philosophie du langage ordinaire, je m'en expliquerai, et je voudrais essayer de l'adopter, de l'intégrer au champ de la littérature et d'en faire un élément pour comprendre les processus par lesquels la littérature entend faire justice. Parce que, évidemment, que la littérature se mêle de justice, qu'elle commande, qu'elle rejuge les projets, qu'elle propose ses propres enquêtes concrètes, qu'elle réfléchisse plus abstraitement, plus philosophiquement sur la justice, c'est un fait qui est manifeste et abondamment commenté. À quoi ça tient? Peut-être aux origines rhétoriques de la littérature, à son enracinement dans la rhétorique judiciaire, qui était un des trois genres rhétoriques, peut-être aussi à la manière dont la littérature moderne, si on en suit Lukács et ensuite Batkin a toujours cherché à capter la polyphonie et donc la conflictualité sociale. Elle serait donc particulièrement sensible aux questions judiciaires à cause de cette sensibilité au dissensus d'ordre varié, et notamment aux dissensus moraux qui font ce que les historiens du roman ont qualifié la pensée du roman, pensée qui va analyser les désaccords, les dilemmes moraux sur la longue durée. C'est l'hypothèse de Thomas Pavel qui me semble tout à fait plausible. Alors, que en particulier la littérature française contemporaine ait été confrontée volontairement et non à l'instant judiciaire, en particulier dans un monde où on valorise l'authenticité du récit et donc la prise de risque et en même temps la protection de la vie privée, est aussi tout aussi documentée. Je ne rentrerai pas dans ce terrain-là, qui est vraiment le terrain de Mathilde, puisque ma réflexion, ce sera moins de réfléchir aux représentations du processus judiciaire, d'analyser les contentieux dans lesquels la littérature s'est faite embarquer, mais de faire de la littérature un opérateur de justice ou de méta-justice en elle-même, en réfléchissant à la manière dont elle va rendre justice par elle-même, hein, comment elle va performer la justice, comment elle va agir en complément, en reprise du discours judiciaire. Alors, je crois qu'on pourrait, au fond, aller jusqu'à dire que toute écriture participe d'une demande de justice et que toute l'histoire de la littérature pourrait être considérée comme un moyen de lutte de nouveaux équilibres, de nouveaux droits. C'est une hypothèse qu'on pourrait formuler, et c'est dans ce sens-là que j'irai, à savoir que c'est une définition fondamentale de la littérature moderne en tant qu'elle travaille la conflictualité que de proposer hein, sa manière à elle de faire justice de toute une série de situations que je vais parcourir aujourd'hui. Alors, j'insisterai en particulier sur les formes contemporaines que je connais beaucoup mieux, hein, formes réparatrices ou substitutives, autant que sur les éthiques qui accompagnent ce processus-là, puisque l'hypothèse que je voudrais faire avec vous, c'est que si la littérature fait justice, si elle performe la justice, c'est parce qu'elle produit de la justesse. Justesse, ce concept donc, qui est à cheval, finalement, entre le droit et le style. Et au fond, c'est ce concept-là qui va me servir à réfléchir sur cette manière de faire justice. Alors, pourquoi cette manière intervient en particulier dans le champ contemporain? Parce que je crois que les sociétés libérales, hein, qui ont isolé les individus des interactions, des sociétés d'interconnaissance, ont fait de la justice un moyen de régulation ordinaire, potentiellement présent dans toutes les situations de la vie. On est invité à porter plainte, à recourir au droit dans très nombreuses situations de la vie commune, entraînant ce qu'on a pu caractériser comme une judiciarisation de la vie sociale, voire de la vie intime. Et c'est donc dans ce contexte, je crois, que la littérature s'est emparée des procès et des débats, dont l'enjeu n'était pas, comme dans le passé, comme à l'époque de Mauriac, de réfléchir à la question du mal, à la question de la responsabilité individuelle, mais plutôt d'écrire précisément des cas concrets, des conflictualités vécues, analysées ou réanalysées par la littérature après avoir été analysées par le procès. Les exemples sont très nombreux, je crois, de cette méta-justice, qu'il s'agisse de revenir sur la question de l'enquête judiciaire pour dénoncer des injustices à l'égard des vaincus, des invisibles, comme le fait par exemple Florence Omnaz dans L'inconnu de la Poste, où elle revient sur une enquête qui avait inculpé un sans-domicile fixe en montrant comment la justice a fait fausse voie longtemps, sans doute guidée par des préjugés sociaux. Ce travail peut être aussi de produire des procès par contumace, lorsque le procès n'est pas possible. Ainsi, Vanessa Springora, qui fait face à des délits prescrits, vous savez, dans son roman à thèse, Le consentement, ou encore Christine Angot, qui reprend le procès d'un père coupable d'inceste, mais qui a disparu, qui est mort, et dont la souffrance n'est pas reconnue. Et c'est par rapport à cette impossibilité de mener un vrai procès que le texte se constitue. Je vous en rappelle quelques lignes. Elle est furieuse de voir un avocat qui plaidait au tribunal l'inceste consenti, l'accusé qui sortait libre, un magistrat qui lui serrait la main en lui disant « Soyez heureux, monsieur ». Vous voyez, c'est cette volonté de juger lorsque la justice n'a pas pu s'exercer, ou encore de rejuger, de reprendre toutes les pièces d'un procès, par exemple Philippe Gianeda dans la Serpe, ou encore de produire des scénarios imaginaires pour analyser de près les processus judiciaires et en penser limite. Je pense ici par exemple à ce que fait Tanguy Viel dans l'article 353 du Code pénal, qui est une réflexion sur le pouvoir du juge, sur l'intime conviction. Donc il s'agit de redoubler la justice, de la poursuivre, dans rééquilibrer certains processus, voire de l'expliquer, de la rendre sensible. C'est ce que fait, par exemple, Emmanuel Carrère dans V13, qui vient de paraître, qui est en fait des chroniques qu'il a tenues lors du procès des assassins du Bataclan, donc des attentats de novembre, et le travail de l'écrivain est donc un accompagnement de ce processus-là. Et là, voilà ce que Emmanuel Carrère entend faire. Il entend rendre la justice un récit collectif. Et pour le citer, écrire ce récit collectif, lire ce livre depuis le début, ce sont deux ambitions immenses, hors de portée sans doute, mais on est là pour ça. On est là pour ce récit collectif qui va rendre intelligible la justice, qui va l'affiner. Alors, tout ça, ce sont des manières d'accompagner des procès, des questions de société, mais je crois que plus largement, il y a des ordres de justice spécifiques à la littérature, là où la justice n'entre pas. Je voudrais en citer quelques-uns. D'abord, il y a ce qu'on pourrait appeler la justice mémorielle. Quand la justice va exercer son pouvoir de nomination, de réécriture de l'histoire pour plusieurs générations après l'ère du témoin, essayer de rendre justice, par exemple, aux perdants de la guerre d'Algérie, de rendre justice également à ceux qui ont été rendus invisibles, rendus minuscules par l'histoire, voire de mener un procès à l'histoire elle-même, comme le fait Éric Vuillard dans ses romans historiques, ou comme le fait encore Yannick Hennen dans Yann Karski, une sorte de procès mémoriel à Roosevelt de ne pas être intervenu pour bombarder les camps de concentration. Vous trouverez ça aussi chez des gens comme Laurent Binet. Enfin, donc, une justice qui va prendre à témoin l'histoire et qui va essayer d'en travailler la signification contemporaine, qui, ne pouvant s'exercer rétrospectivement, va essayer de produire une histoire réaménagée, une histoire plus juste, pourrait-on dire. Deuxième type de cas de justice propre à la littérature, ce qu'on pourrait appeler la justice culturelle, cas particulier de l'injustice historique, l'injustice à l'égard des minorités culturelles, des peuples dominés, c'est tout ce qui apparaît dans les littératures postcoloniales, qui vont essayer de faire un procès a posteriori de la colonisation et qui vont produire une histoire commune. C'est ce que fait par exemple Alice Zeniter, qui explique que les communautés n'avaient pas de ce récit collectif et qu'il incombe à l'écrivain de produire ce récit collectif pour ressouder à cette communauté, donc des Algériens ayant émigré en France dans les années 60. Donc voilà l'exemple d'Alice Zeniter, vous en trouverez beaucoup d'autres de cette justice culturelle. Alors, autre type de justice propre à la littérature, en prenant vraiment le mot au sens large, la justice qu'on pourrait appeler la justice sociale, là ce sont les dominés de l'intérieur, ce sont les sans-grades que sont les migrants, les sans domicile fixe, pour lesquels la justice se fait porte-parole des droits de l'homme en général, mais aussi va essayer de faire circuler des formes de réparation sociale. Ainsi, Annie Ernaux va essayer de rendre justice à sa race. Elle va vouloir venger sa race pour la cité. Cette expression est assez forte, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire rendre justice finalement à ces petits paysans, à ces petits commerçants, dont les paroles n'auront jamais été entendues. Alors, autre type de justice, la justice qui va concerner, et là, dans certains cas, la justice littéraire va croiser la justice humaine, la justice qui va intervenir sur la question des corps. La justice qui va essayer, par exemple, de dénoncer l'inceste, de dénoncer les violences faites aux femmes, de diffuser des valeurs orientant notre attention vers des injustices sexuelles, notamment, qui sont en œuvre dans la société, là où le droit ne s'en saisit pas ou ne peut pas s'en saisir. Il s'agit de renverser, de dénoncer les dominations, de défendre, de défendre les femmes, de défendre ceux qui ont été victimes d'abus, d'harcèlement, etc. Et de très nombreux textes participent de cette défense extrajudiciaire des corps. Enfin, je voudrais dire quelques mots d'une autre forme de justice qui elle aussi ne peut être vraiment menée que par la littérature, qui est la justice environnementale, qui va consister non pas à défendre les corps humains, mais à défendre la nature. Et la littérature va prendre parti pour les animaux, contre l'agent industriel. Elle va prendre parti pour la terre contre l'extraterrestre activisme, contre l'appropriation, contre les formes de domination. Et là, je crois qu'elle exerce une prérogative qui est au fond d'étendre les droits de la justice humaine à des agentivités non humaines. Et je crois qu'il n'y a que la littérature pour faire cela. Alors, que la littérature donc, s'attaque à des questions menées par la justice humaine ou à des questions qui ne peuvent pas être prises en charge directement par la justice humaine, elle va à la fois dénoncer et réconcilier, faire un travail de dénonciation et de réconciliation. Elle va faire scandale et elle va restaurer les liens. Ce sont les deux polarités, pourrait-on dire, de ce pouvoir d'action de la littérature, donc héritière à la fois de cette littérature des avocats, cette littérature de la dénonciation, j'y reviendrai, d'une tradition rhétorique, mais aussi d'une tradition diplomatique, une tradition diplomatique qui va ensuite essayer de réconcilier. Alors, pour faire cela, je crois qu'il n'y a pas une manière que la littérature va déployer pour produire sa justice ou sa métajustice, mais des moyens littéraires qui sont parfois très étrangers les uns aux autres. Certains sont centrés sur la représentation du scandale, on va dénoncer en montrant. Dans d'autres cas, on va être centré sur la parole, on va faire entendre celui qui a souffert, on ne va pas représenter les faits, mais on va faire entendre les acteurs eux-mêmes. Dans certains cas, on va proposer un réalisme documentaire, dans d'autres cas, une échappée métaphorique. Et ces options restent ouvertes. Chaque option a ses avantages et ses inconvénients, j'y reviendrai. Le recours au jeu va valider l'expérience, mais va rendre plus difficile à monter en généralité. Comment on fait quand on parle du cas particulier, lorsqu'on est Camille Kouchner, de l'inceste qu'on a vécu pour arriver à une certaine généralité? Comment évite-t-on le risque de la victimisation qui accompagne cette prise de parole en première personne? Au contraire, le passage par la fiction, le détachement de la fiction, permet de plaider à charge et à décharge, mais peut rendre plus lointain l'urgence de la demande de justice. D'un côté, le risque d'une revendication qui resterait en silo, de l'autre, celui d'une généralisation abusive. En vérité, je crois qu'il s'agit d'une colère performée, d'une décantation métaphorique, d'une dénonciation publique ou d'une analyse métajudiciaire, qu'il s'agit d'une narration engagée ou d'une narration distanciée, qu'il s'agit d'un appel au commun ou d'un rappel de l'incomparable, tout est une question pour moi de justesse par rapport à des situations vécues ou rapportées. C'est là que je vais introduire ce concept de justesse qui me semble être productrice de l'acquiescement qui est nécessaire à la sensibilisation à une cause, qui permet l'empathie, qui permet de ressaisir une situation conflictuelle par les moyens de la littérature en se plaçant à la bonne position, en se situant mentalement de manière adéquate. Et adéquate, ça vous conduit à pouvoir vous projeter, à partager les affects contradictoires qui nouent le lecteur au récit ou directement au narrateur. La justesse se situe entre le jugement esthétique et le jugement ascétique. Elle dit l'adéquation entre le langage descriptif et symbolique de la littérature et les catégories profondes qui structure notre jugement dans un contexte donné. Elle permet de faire le pont entre les différents ordres de jugement, que sont le jugement moral, le jugement esthétique. Elle nous permet de qualifier une situation comme adéquate, comme authentique, et donc de permettre cette opération symbolique qu'est la justice littéraire. Je crois qu'en gros, il n'y a de justice littéraire que si le lecteur a le sentiment de justesse. La justice, elle peut produire un débat contradictoire dans les prétoires. La littérature ne peut pas produire ce débat. Qu'est-ce qu'elle produit? Elle produit une adéquation très fine qui est celle de justesse. Alors, je voudrais vraiment développer ce concept parce qu'il n'est pas anodin, il n'est pas évident de faire entrer ce concept qui est largement d'origine wittgensteinienne et qui vient de la philosophie de langage littéraire, ordinaire, en littérature, puisque c'est un jugement qui implique toute notre expérience humaine, notre expérience complète, et que c'est un jugement qui est à l'origine de ce que Martin Nussbaum nommait la justice poétique, c'est-à-dire l'éducation littéraire à la justice par la justesse. C'est donc, au fond, une des manières, la justesse, dont on peut décrire l'action de la littérature sur le monde. Wittgenstein faisait remarquer qu'il y avait bien plus dans les questions esthétiques que des jugements esthétiques. Pour citer Wittgenstein, il est remarquable que dans la vraie vie, dans les jugements esthétiques, les adjectifs esthétiques comme beau, réussi ne jouent quasiment aucun rôle. On dira plutôt, vois cette transition, ce passage ne colle pas, son usage des images est précis. Voilà ce que nous dit Wittgenstein, ça ne colle pas ou ça colle. Et toute l'expérience est impliquée dans cette justesse, et je crois que de fait, ce concept, vous allez le retrouver dans la plupart des polémiques contemporaines sur l'art et la littérature, qui mêlent indissolublement et étroitement justesse et justice, qui sont des débats poétiques, poétique étant écrit TH, pour reprendre un terme qui a été récemment popularisé par Jean-Claude Pinson, mais qui remonte à ma connaissance à Philippe Jacotet, à Michel Deguy. Et pour vous donner quelques exemples de ces débats sur la justesse d'expression et sur la capacité d'un texte à produire de la justice, pensons par exemple à la manière dont on a débattu du texte d'Yvan Jablonka, Laetitia ou La fin des hommes, qui s'est voulu un livre de justice, et là je cite Jablonka, comme pour mes grands-parents, il s'agit d'un hommage, mais aussi d'une quête de justice et de vérité, note l'auteur. Or, cette justice de Jablonka, elle n'est possible que si la jeune fille assassinée, dans cette enquête que vous connaissez, elle est véritablement traduite avec la bonne distance. Or, c'est un point qui est extraordinairement contesté. Jablonka a été attaqué, on lui a reproché d'écraser Laetitia par un discours surplombant. On lui a reproché d'adopter une parole paternaliste et emphatique, finalement, qui ne rendait pas justice à Laetitia et donc qui ne pourrait pas produire cette quête de justice qui est revendiquée au début du récit. D'autres cas de polémiques littéraires, ces notions de justesse ont apparu. Par exemple, dans D'autres vies que la mienne, Emmanuel Carrère essaie de parler de la souffrance sociale, mais aussi d'un manière dont des juges de surendettement opèrent, donc il parle lui-même de la justice. Est-ce que Emmanuel Carrère a réussi à dire de manière juste cette souffrance, grand bourgeois qu'il est, narcissique et agaçant qu'il peut être, a fait l'objet de beaucoup de commentaires critiques. Est-ce que Carrère est le bon? Est-ce que Carrère peut avoir une éthique de l'empathie, peut avoir un ressenti adéquat à la souffrance de ces ménages surendettés, de ces gens atteints par tous les malheurs du monde? Et je crois que ce sont des polémiques tout à fait virulentes. Je voudrais encore vous en donner un autre exemple très, très récent, qui est celui de Camille Laurence, qui s'en est pris à la carte postale d'Anne Berest dans un article qui a fait grand bruit, puisqu'il a conduit Camille Laurence à démissionner de son rôle de feuilletoniste au Monde des Livres, puisqu'elle a été membre du jury Goncourt, où son compagnon était lui-même appelé à pouvoir figurer. En tout cas, ce n'est pas cette question-là qui m'intéresse, mais la manière dont Camille Laurence s'en prend à Anne Berest, qui raconte la Shoah en analysant, selon elle, en manifestant, sont-elle une absence de point de vue et des descriptions qui sont des descriptions qui relèvent du poncif. Et voilà qu'est-ce que nous dit Camille Laurence. Elle nous dit « L'éthique n'est pas une valeur ajoutée à un livre, elle est dans le point de vue interne à la forme même que l'auteur lui donne. » Et l'auteur a donc la responsabilité de la forme. Et donc, Anne Berest aurait été irresponsable dans sa manière de parler de la Shoah. Et donc, le projet de justice mené par Anne Berest, qui voulait rendre compte de sa famille, serait donc interdit, serait donc bloqué par un mésusage de la forme. Vous voyez, on bascule souvent dans la dissonance. Il suffit d'une tonalité de phrase qui ne sonne pas juste, d'un décalage entre le vocabulaire d'une représentation et notre appréciation. Il suffit qu'un style nous semble inadéquat, qu'une posture énonciative ne nous convienne pas pour que l'œuvre littéraire soit inactivée, pour qu'on ne puisse pas y entrer, puisqu'on ne puisse pas produire de l'empathie, pour qu'on ne puisse pas, au fond, acter, valider cette justice que l'écrivain nous introduit à produire, hein, comme dit Albert Camus, mal nommé ajoute au malheur du monde, et il suffit de mal nommer pour ne plus pouvoir rendre justice. Et je crois que c'est cette quête de précision donc, qui amène tous ces écrivains qui demandent justice. À chaque fois, le style peut être hésitant hein, dans ces quêtes des meilleurs mots. Hein, et quelqu'un comme Christine Angot a beaucoup commenté hein, cette manière dont elle va choisir la plus grande précision qui lui paraît plus juste. Hein, elle explique, par exemple, elle discute, dans les petits, elle montre le récit qu'elle fait de l'inceste que son père a exercé sur elle. Elle le montre à son propre père. Et son propre père, qu'est-ce que lui dit son père ? Il lui dit « Ah oui, mais tu aurais dû être plus métaphorique, tu aurais dû faire ça. » Je cite son père, de manière un peu incertaine, à la manière de Robe Grillée. Et Christine Angot répond à son père « Ce n'aurait pas été juste. » Et elle explique « Si j'arrive un jour à écrire ce truc, ça ne sera pas la méthode que j'emploierai, certainement pas, ça sera tout à fait clair. » Donc, il fallait être clair pour être juste. Il fallait donc trouver les bons mots. Donc, voyez comment ce concept de justesse, qui n'est pas la vérité, qui n'est pas la beauté, mais qui est à la fois la vérité et la beauté, hein, devient le premier principe qui guide de nombreux écrivains contemporains. Et là, il y a une formule tout à fait puissante qui m'est venue à l'esprit en lisant un conseil que Annie Ernaux hein, avait adressé à la réalisatrice du film adapté de l'événement. Voilà ce que Annie Ernaux avait dit à cette réalisatrice. Elle avait cité Tchekhov et la formule est suivante: soyez juste et le reste viendra de surcroît. Tout le reste, toute l'émotion, toute la beauté littéraire, etc., tout vient de surcroît à partir du moment où on est juste. Et voilà, c'est le seul conseil que Annie Ernaux a donné à la réalisatrice de son film, soyez juste. Vous voyez, c'est cette notion très, 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 très fine. Hein. Roland Barthes, qui était musicien, avait tenté de définir la justesse comme une morale de la forme. Là, on retrouve la responsabilité de la forme qu'évoquait Camille Laurence. À peu près à la même époque où Jean-Luc Godard disait que le travelling était affaire de morale, hein, une formule même célèbre, et le sens intuitif de cette formule ne cesse de nous troubler. Nous savons chacun qu'est-ce qui sonne juste, qu'est-ce qui sonne faux, hein, mais l'interrogation de trouver, hein, la justesse reste fondamentalement difficile. Hein, pour citer Wittgenstein à nouveau, comment trouvais-je le mot juste ? Comment est-ce que je choisis parmi tous les mots ? Tout à fait comme si je comparais entre eux des différentes fines de goût. Celui-ci est trop haut, celui-ci est trop, mais voilà le mot juste, dit Richtige, das Richtige, dit Wittgenstein, mais il n'est pas toujours nécessaire que je juge, que j'explique pourquoi tel ou tel mot ne va pas, nicht stimmt, hein, dit Wittgenstein, il ne va pas, c'est tout. Il ne va pas, c'est tout. Et effectivement, on a ce sentiment en apparence intuitif, mais on a été extraordinairement construit de ce que c'est que la justesse. Et c'est donc une capacité pour nous relationnelle de rentrer en relation à une situation, mais c'est pour l'écrivain le fait de trouver une voie. Et dans la pensée de la philosophie du langage ordinaire, ce qui va avec le fait de toucher à la justesse, c'est trouver la voie juste, c'est trouver cette voie juste pour décrire une situation dans des récits à la première personne, c'est trouver un équilibre entre les responsabilités morales de plusieurs personnes qui agitent hein, les écrivains. Et je crois que cette question de la voix et de sa justesse, elle est au cœur de textes qui veulent opérer la justice. Pour y réfléchir, je vous renverrai, il y a un texte absolument magnifique qui est le dernier maïs de Keranga sur la question de la voix, hein, qui s'appelle Canoë, hein, qui à chaque fois, ce sont des héroïnes qui ont un problème avec leur propre voix, qui ont une voix trop aiguë, qui ont un problème dentaire qui fait que leur voix, qui ne se reconnaissent pas dans cette voix. Donc clairement, les voix sont fragiles, hein, la quête de nous reconnaître dans notre propre langage, dans ses sonorités, hein, est une question qui est ouverte, mais c'est devenu une question fondamentalement littéraire et nous devons, pour pouvoir être juste, trouver cette voie, essayer de faire avec l'écart nécessaire entre notre voie intérieure et notre voie sociale, ce que Sandra Laugier, avec qui j'ai beaucoup été en dialogue sur cette question de la justesse, nomme l'extériorité de notre vouloir dire. Hein, et clairement, la question de la justesse, elle va passer par ces écrivains, à la première personne en tout cas, par la production d'une voie juste, qui va donc être celle de l'ajustement de l'action, de l'expression et de notre perception, pour citer encore Sandra Laugier, dans le contexte de notre finitude par rapport au langage. Bref, pris dans son double sens de justesse par rapport à soi-même et de justesse de redescription du monde, le concept nous permet de dépasser les dilemmes du jugement esthétique et du jugement éthique et rend compte du pouvoir d'action, d'intervention propre à la littérature et à la lecture comme rééquilibrage des injustices du monde et formes de justice par défaut. Si nous acquissons à la justesse, ça c'est un mot aussi que j'aimerais bien laisser développer, que j'ai commencé à théoriser, c'est très expérimental ce que j'essaie de faire avec vous, c'est le mot d'acquiescement. Il me semble que la manière dont nous réagissons par rapport à un récit qui nous donne le sentiment de justesse est un sentiment d'acquiescement. Si nous acquiesçons, nous sommes entraînés à juger d'une situation de manière juste, d'un conflit présenté par le texte, et en retour, une fois que nous avons acquiescé à la juste situation, nous sommes nous-mêmes éduqués, c'est cette éducation sémantique dont parle toute la tradition de Martha Nussbaum lorsqu'elle parle de justice poétique, nous sommes, de ce point de vue-là, saisis hein, dans nos cadres habituels de perception du monde. Autrement dit, nous rencontrons, je lis Vanessa Springora, je suis sensible à la finesse de la description de son expérience d'abus sexuel. Je considère que sa voix est juste. Par retour, ayant convenu, ayant acquiescé la justesse sur son point de vue, j'entre en résonance avec celui-ci. Voilà un autre concept qui est très opératoire hein, pour décrire ce qui se passe lorsque on va lire ce type de récit d'expérience aux enjeux moraux extrêmement, extrêmement, extrêmement forts. Parfois, je peux rentrer en résonance avec un point de vue, mais aussi avec d'autres points de vue. Et donc, ma résonance est complexe, hein, parce que je suis sensible à la complexité d'une situation. Hein, ce faisant, j'élargis mon horizon de réflexion morale à de nouveaux types d'injustices, à de nouveaux dilemmes, à de nouvelles questions qui vont être réanalysées finement une fois que j'aurai accepté la valeur de justesse de l'œuvre littéraire. Et clairement, le récit à la troisième personne qui met en place des points de vue contradictoires n'est pas identique hein, au récit à la première personne qui me convainc à titre personnel, dans un rapport peut-être plus d'identification plus fort, de la justesse d'une situation. Mais si je prends par exemple la manière dont Karine Thuil décrit la question du consentement dans les choses humaines, la capacité d'adéquation du roman de Karine Thuil, sa capacité d'incarnation fine des points de vue et suffisamment nuancée pour que l'expérience imaginaire qui nous a porté, hein, même si elle n'est pas identique à l'expérience attestée qui est celle, par exemple, de Vanessa Springora, conduit tout de même une adhésion éthique et esthétique à la fois. Hein. Le narrateur et la troisième personne est aussi une voix qui doit faire preuve de justesse dans sa manière de mettre en scène, à charge et à décharge, une question morale. Bref, je deviens sensible par des détails, par la densité d'un récit, à des configurations auxquelles je n'accordais pas précédemment attention. Je vais donc être beaucoup plus sensible à la question du consentement après avoir lu ces textes et de la réparation intérieure privée née à une négociation imaginaire avec l'écrivain, de la justice imaginaire que je rends au profit de cet écrivain, découle aussi des effets politiques, hein, puisque j'aurais été éduqué à rendre justice d'une situation. Bref, le récit ne fait pas que représenter une situation ex poste, a posteriori, il agit aussi ex ante, hein, il agit aussi en essayant de rendre justice d'eux, en corrigeant un jugement ou une absence de jugement, comme de rendre justice à, hein, en produisant de l'équité. Hein, donc l'éducation à la justice n'est pas qu'une éducation correctrice, elle nous prépare à mieux juger si nous sommes citoyens. Et cette notion de justesse, ben, une petite parenthèse, elle n'est pas qu'une notion littéraire. Hein, en réalité, lorsque, par exemple, on auditionne un témoin, on auditionne un demandeur d'asile, c'est la justesse de son récit que les juges évaluent, son adéquation à ce que, par exemple, un demandeur d'asile va raconter sur sa situation dans son pays, dans son expérience, dans son ressenti, qui va être jugé par les juges. Lorsqu'on interroge un témoin, c'est bien la justesse de son récit que la justice va essayer de juger. Et ça, c'est très bien décrit dans une scène d'histoire de la violence d'Édouard Louis, hein, qui raconte la difficulté lui-même à avoir une voix juste, à avoir une voix adéquate, et au sentiment que son témoignage va être jugé par les policiers selon cette justesse. Voilà comment nous raconte cela Édouard Louis. « Les deux policiers m'avaient accueilli avec compassion, pour ne pas dire avec tendresse. Régulièrement, je perdais le fil du récit, je parlais au hasard, je formulais des phrases qui n'avaient pas de sens dans ce contexte, je me ridiculisais, je faisais des grandes phrases stupides, je revenais sans cesse sur la même chose, le même moment de la nuit que je redisais avec d'autres mots, avec d'autres intonations, comme pour essayer d'en atteindre la vérité. » Bref, la question de la justesse, elle n'est pas seulement une question de vraisemblance du récit, elle est vraiment une question de conviction, d'intime conviction de celui qui écoute. Hein. Elle est mobilisée à chaque fois qu'on doit juger de la véridicité, mais aussi de la pertinence, hein, du récit d'autrui, et parfois, au fond, nous-mêmes, dans notre propre rapport à nous-mêmes, les propres récits que nous faisons, nous les soumissons à l'épreuve de la justesse. Sommes-nous vraiment justes en disant ça? Faisons-nous part de ce qu'on appelait de la mauvaise foi? Et l'institution judiciaire juge de la justesse des récits. Hein, elle produit des récits dont nous jugeons ensuite la justesse. Quand ensuite elle re-raconte une histoire, c'est nous qui jugeons la justesse de la justice. La littérature, comme la justice, elle explique autant qu'elle répare. Hein, elle produit des récits dont on a besoin. Elle produit ces récits collectifs. Elle met de l'ordre en expliquant, qui est vraiment une fonction qui est partagée entre la justice et la littérature. Et c'est peut-être ce que tout ce qu'on appelle maintenant la justice narrative va essayer de saisir. Alors, une fois cette proposition théorique posée, hein, qui était le cœur, hein, de ce que je voulais vous proposer à débattre, je voudrais insister sur le fait qu'il n'y a pas qu'une seule forme de justesse, il n'y a pas qu'une seule manière d'arriver à la justesse, il n'y a pas un modèle de justesse, il n'y a pas un type de récit qui va emporter notre adhésion de cœur moral, mais plusieurs modalités génériques et possibles du récit. J'ai déjà opposé dans les modulations de la justesse, le récit à la première personne, au récit à troisième personne, le récit direct au récit métaphorique. Et rapidement, peut-être quelques propositions, hein, de typologie. Hein. Alors, il y a une première forme de justesse littéraire, hein, qui est de s'appuyer sur la colère, ce que j'appellerais l'éthique de la colère, qui est vraiment une éthique, un éthos de l'avocat en termes rhétoriques, dans lequel l'écrivain va s'appuyer sur une plainte, une dénonciation, un scandale. Elle va dévoiler, et c'est par exemple le cas d'Édouard Louis, hein, qui, vous savez, a échoué judiciairement parce que le jeune homme qu'il accusait d'avoir violé a été relaxé par la justice, mais sans doute réussit-il à trouver la colère juste, qui sera celle aussi, par exemple, d'une autre écrivaine de la colère, de la justice par la colère, qui est Christine Angot, hein, bien sûr. Parler, briser le silence, briser le silence. Pour ça, il fallait voir les choses, les savoir, les faire exister dans la tête, se les représenter, supporter les images, vivre avec elles, trouver les mots qui leur correspondaient, les exprimer. Vous voyez, il y a tout un style, hein, particulier qu'il faudrait évoquer au siècle d'un style beaucoup plus fine, hein, qui est ces stilèmes de la colère. auxquels on pourrait ajouter aussi tout ce qui va relever de l'ironie vindicative. Par exemple, Sandra Lucbert, lorsqu'elle analyse le procès de France Télécom, est investie de cette ironie à l'égard du corps social. C'est aussi une colère que vous retrouverez aussi, je ne sais pas, chez Quintane, chez Sophie Divry, etc. Donc, première proposition, hein, qui est une justesse dans laquelle cette éthos inattaquable qu'est la colère, qui vient justifier éthiquement l'écrivain. Autre possibilité qui est tout à fait différente, qui est une justesse qui va être fondée sur la nuance, sur les scrupules. Hein, les éthiques de la suggestion, de la pudeur, de la réflexivité garantie par ce pouvoir de réserve de la littérature font aussi attestation, font aussi justesse, parce qu'ils garantissent une authenticité. Et je crois que cet éthos, qui est peut-être là ici, peut-être un éthos du témoin, pourrait-on dire, vous allez le retrouver par exemple dans cette Vanessa Springora que j'ai beaucoup citée. Je vous en citer un simple passage qui vous dit la capacité d'auto-analyse et de réflexivité fine, qui est une autre manière de convaincre de faire acquiescer le lecteur à sa justesse. Lors de ce premier, elle raconte la scène où, pour la première fois, elle a cédé à Gabriel Masneff. Lors de ce premier après-midi passé chez lui, j'ai ce monde d'une délicatesse exquise. Il m'embrasse longuement, me caresse les épaules et glisse la main sous mon pull sans jamais me demander de le retirer, ce que je finis pourtant par faire. Deux adolescents timides flirtant à l'arrière d'une voiture. Bien qu'alangui, je suis paralysé, incapable du moindre geste, de la moindre audace. Je me concentre sur ses lèvres, sa bouche, tenant du bout des doigts son visage pensé sur moi. Le temps s'étire et ce sont les joues en feu, les lèvres et le cœur gonflés d'une joie inédite que je reviens chez moi. Donc elle restreint son point de vue, comme sa perception a été restreinte à ce moment-là, mais aussi parce qu'elle restreint son point de vue à ce qu'elle a été alors, pour toucher la justesse. Être juste pour elle, c'est d'épouser hein, exactement le point de vue qu'elle a eu, qui n'était pas d'être victime d'un inceste, mais d'être touchée par une joie inédite, dit-elle. Et je crois que c'est par cette forme-là qu'elle nous convainc, je crois, de la validité, de l'importance de la cause qu'elle veut plaider. Alors, autre forme de justesse, qui est une forme de justesse qui tient à des narrations à troisième personne qui vont mettre en place la conflictualité, une justesse non pas par la douceur ou par la colère, mais par la perplexité. Et là, la délibération, l'analyse, la mise en scène de voix contradictoires, hein, de voix polyphoniques, comme par exemple le fait Jean Asfeld, hein, vous savez, qui a beaucoup pratiqué des techniques de renarration des violences rwandaises par des récits de voix, mais aussi des gens qui, comme Karine Thuil, par exemple, vont nous sensibiliser à la complexité, nous sensibiliser au caractère très contradictoire. Je ne vous citerai pas les exemples que j'avais de cet éthos que je qualifierais un éthos pour le coup du juge. Et je voudrais évoquer aussi d'autres formes, d'autres éthos et d'autres formes de justesse. Rapidement, la justesse qui est celle de la déflation du récit en une simple enquête, toujours à troisième personne, qui est pour le coup la manière dont l'écrivain peut s'aligner sur l'ethnologue ou le journaliste, peut s'appuyer sur les savoirs des sciences humaines et sociales ou sur les techniques d'enquête. Sur un éthos de l'enquêteur, hein, comme le fait par exemple Florence Omnas, que je citais au début de mon intervention, qui est aussi une manière de conquérir la justesse. Hein, et la justesse est au fond un savoir professionnel de l'enquête, un savoir professionnel de l'ethnologie de terrain qui va essayer d'utiliser ces outils, ces méthodes pour toucher à une description juste de la situation. Et je crois qu'on est frappé quand on lit Florence Omnas parce que franchement la finesse de sa description, on est convaincu, hein, on est convaincu en notre fort intérieur, on acquiesce à la justesse de la manière dont elle se positionne par rapport à Thomassin, donc à ce coupable finalement disculpé par la justice. Dernier éthos possible, hein, Mais sans doute, on pourrait réfuter, contester ou reproblématiser cette typologie des ethos, des étés, puisqu'il faut mettre le pluriel grec là où il le faut, ce qui est tout ce qui va relever de la justesse par la pitié, hein, tout ce qui va relever de la délégation de parole, d'une première personne qui va être vectrice d'émotions pour quelqu'un d'autre, qui va produire une transmission. Et là, je pense clairement au cas d'Emmanuel Carrère, hein, qui vraiment pratique ici cette justesse du transfert affectif, hein, et qui nous convainc de la justesse de la cause qu'il défend par l'émotion qu'il reçoit. Alors, si j'avais eu le temps, je vous aurais donné des exemples dans sa retranscription du procès d'attentat, hein, dans V13, la manière dont il va lui-même expliquer comment il va transformer et métaboliser, hein, la souffrance qu'il a en face de lui. C'est peut-être un ethos du soignant, je ne sais pas comment faudrait-il le décrire. Alors, concluons, hein, dans toutes ces postures et ces modalités de la justesse, hein, la responsabilité épistémique et éthique de la littérature est déposée dans le langage, dans sa forme d'énonciation. La poétique éthique, TH du récit, ce sont donc les moyens variés par lesquels celui-ci cherche à attester, à faire reconnaître sa justesse en contexte pour produire une forme de reconnaissance, une forme d'acquiescement. Le bon ajustement des voies et la justesse et de la justesse au désir de justice est seule garantie que la littérature puisse produire une forme de justice, puisse performer la justice par elle-même. Et je crois que cette forme n'est pas uniquement une forme réparatrice, mais aussi une forme qui nous prépare, qui aiguise nos sensibilités, qui nous équipe sémantiquement. Et de ce point de vue-là, on a fait de l'écrivain une figure mystique, d'écrivain réparateur en l'absence de Dieu face aux imperfections divines. Dans le Tikkun Olam, l'écrivain devait réparer l'imperfection de la création divine. Il faut rappeler une autre figure tout à fait importante de cette même mystique juive, qui est la figure de l'écrivain comme juste, hein, comme juste caché ou comme juste affirmé. Je vous renvoie à Walter Benjamin et à Didier Huberman, hein, qui est le gardien par sa voix de la fragilité du bien, et donc qui incarne peut-être aussi une figure du juste moderne et aujourd'hui dans ce contexte où il produit à la fois une méta-justice et sa justice là où la justice ne peut pas aller.
Merci d'avoir été avec nous jusqu'à la fin de cet épisode. Les balados OIC sont disponibles sur toutes les plateformes de balado-diffusion et sur le site de l'Observatoire de l'imaginaire contemporain à l'adresse oic.ucam.ca.